Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Coronavirus en Afrique, le Ghana a annoncé la fermeture de toutes ses écoles et universités et l'interdiction des rassemblements publics pendant 4 semaines pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, dont au moins 6 cas ont été détectés dans le pays. Des mesures de protection décrétées par le président Nana Akufo-Addo dans une déclaration à la Nation dimanche. Les enterrements sont permis, mais ne devront pas rassembler plus de 25 personnes, a précisé le chef de l'État ghanéen. Le Ghana a également annoncé dimanche la fermeture prochaine de ses frontières aux personnes arrivant des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, une mesure qui entrera en vigueur mardi pour les étrangers. Plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne, dont l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Ouganda, ont également adopté des mesures de restriction aux frontières, alors que les cas du nouveau coronavirus se multiplient sur le continent africain. Un premier cas a été diagnostiqué ce week-end au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et aux Seychelles. Idem dans le nord de l'Afrique, en Libye, le GNA, le gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, a décidé de fermer à partir de ce lundi même les frontières terrestres et de suspendre toutes les liaisons aériennes dans l'ouest du pays sous son contrôle pour prévenir la propagation du Covid-19. Les autorités sanitaires libyennes affirment toujours n'avoir détecté aucun cas de contamination sur place, mais le chef du GNA, Faïd al-Sarraj, a déclaré quand même l'état d'urgence et de mobilisation en Libye. Coronavirus en Afrique toujours, au Sénégal, où 26 cas de COVID-19 sont confirmés. Le président Macky Sall a annoncé des mesures préventives pour limiter la propagation de la maladie. La plus attendue était l'interdiction pendant 1 mois des rassemblements et manifestations. Et plusieurs célébrations religieuses qui devaient accueillir des centaines de milliers de personnes vont être annulées. Mais les initiatives du président sénégalais rassurent globalement les populations, même si certains mettent des réserves. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Au centre des attentions, depuis que le coronavirus a atteint la grande cité religieuse de Touba, les chefs religieux de cette ville et du Sénégal ont tour à tour décidé de reporter ou d'annuler les célébrations. Une décision prise pour se conformer aux directives étatiques, mais pour Abel Sagna, le fond du problème demeure le mode de vie des Sénégalais.
Notre culture favorise la vitesse de propagation de la maladie. Regardons comment nous vivons. Nous nous saluons par la main, nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble le thé, et nous, on n'est pas quasiment tout le temps ensemble. Nous sommes les plus sociables, je peux dire, de l'humanité. C'est très favorable à la propagation de la maladie.
Même son de cloche du côté de Yaya Junior Diba, qui estime que l'État doit aller au-delà de la sensibilisation par les médias. Pour ce jeune originaire du Sud, les autorités doivent prendre des mesures pratiques pour que la population intègre certaines précautions. Yaya suggère également que le contrôle ne se limite pas aux frontières, mais qu'il touche aussi les voyages à l'intérieur du pays.
Ah, tout récemment, je suis parti en Casamance. J'ai vu qu'il n'y avait pas de contrôle. À l'aller comme au retour, il n'y avait pas de contrôle. Peut-être que ce sont les gardes bien qu'ils se sont un peu organisés et nous demandaient de nous laver les mains exclus, mais du côté du Sénégal, il n'y a rien, alors qu'il y avait le coronavirus au Sénégal.
Les avis de ces citoyens sont parfaitement en accord avec l'analyse du docteur Baba Moudou Ndiaye, qui affirme que l'État doit anticiper et accentuer les efforts de sensibilisation envers la population afin de limiter les risques.
Mais ce sont des décisions qu'il fallait prendre depuis. Ensuite, voilà, vulgariser l'information pour que la population sache les mesures préventive, pas seulement se laver les mains, même les portables, les télécommandes et tout, voilà. Donc trop en faire, même c'est mieux que de ne pas en faire.
Pour prendre les devants face à certaines situations, l'État a d'ailleurs décidé de partir en croisade contre les fake news. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui sapent l'effort de lutte nationale contre le coronavirus.
Depuis quelques jours, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux remettent en cause la présence de cas de COVID-19 au Sénégal. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la riposte nationale contre le COVID-19.
Outre l'interdiction de rassemblement dans les lieux clos ou ouverts, le chef de l'État a entre autres annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour 3 semaines, l'interdiction des bateaux de croisière, le renforcement des contrôles aux frontières et des moyens sanitaires, l'acquisition de matériel médicaux spécifique, le déploiement d'hôpitaux mobiles par l'armée et l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Le président Sall a aussi exprimé sa solidarité aux Sénégalais de la diaspora tout en leur demandant de respecter les mesures sanitaires en vigueur. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
La lutte contre le coronavirus sort d'Afrique. La barre des 2000 décès dus au nouveau coronavirus en Europe a été franchie dimanche, portant le bilan à plus de 6000 morts à travers le monde, d'où les confinements de population et les fermetures de frontières se multiplient. Le point avec Jean-Roger Bion.
Face aux craintes générées par l'épidémie, les principales banques centrales mondiales ont lancé dimanche une action concertée visant à augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités. La réserve fédérale américaine a abaissé ses taux de 1 point pour rassurer les marchés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3199, mais c'est en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Au total dans le monde, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie COVID-19, pour 159 844 cas recensés selon l'AFP.
La lutte contre les djihadistes en Afrique maintenant, l'Italien Luca Tacchetto, enlevé avec sa compagne canadienne Edith Blay, il y a 15 mois au Burkina Faso, est libre depuis samedi, est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Rome, a annoncé le ministère italien des Affaires étrangères. Plus de détails avec Michel Joseph.
Une source proche de l'ambassade du Canada au Mali avait de son côté déclaré que des dispositions avaient été prises pour que les ex-otages regagnent leur pays respectif. Lucas Tacchetto a atterri à l'aéroport de Campino, fermé au vol civil en raison de la pandémie de coronavirus, mais il s'agit également d'un aéroport militaire. Ni les circonstances de la libération des deux otages, ni les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés aux environs de Kidal, à près d'un millier de kilomètres du lieu de leur enlèvement, ne sont encore clairement établies. Des informations préliminaires indiquent qu'ils ont réussi à s'enfuir. Edith Blay et Lucas Tacchetto avaient disparu mi-décembre 2018 alors qu'ils traversaient le Burkina Faso. Âgés d'une trentaine d'années, le couple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 km de la capitale, quand leur trace a été perdue. Ils comptaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire avec l'organisme Zion Gaïa.
République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga a été libéré dimanche à Kinshasa après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Arrêté en 2006, il avait été condamné par la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, à 14 ans de prison en 2012 pour enrôlement d'enfants soldats dans le conflit en Ituri, dans le nord-ouest de la RDC au début des années 2000. Le point avec Nathalie Barge.
Thomas Lubanga avait été transféré en décembre 2015 de La Haye vers Kinshasa pour purger la fin de sa peine avec un autre chef de guerre congolais condamné par la CPI, Germain Katanga. Il était le leader de la communauté Emma en guerre avec les Lindous en Ituri lors d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003. Son retour en Ituri est attendu alors que plus de 700 civils ont été tués dans de nouvelles violences depuis décembre 2017. Ces violences sont largement attribuées à une milice mystico-religieuse, la CODECO, active en zone lindoue. Les EMA n'ont constitué aucun groupe d'autodéfense, affirmant s'en remettre à l'autorité de l'État. L'armée a affirmé samedi avoir tué plusieurs miliciens, dont un proche du chef de la CODECO. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis début mars dans le territoire de Djougou.
Et pour terminer au Cameroun, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto, accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat de son leader. Ce que le ministère camerounais de la communication dément avec véhémence, affirmant au contraire que les partisans du leader d'opposition ont molesté un gendarme. Merci de votre attention.